Chapitre 2. Le soir, quand il rentra, Leska se laissa tomber dans le fauteuil de cuir. Il ne s'était pas arrêté aux étages en montant l'escalier et son cœur battait violemment. Il jeta son chapeau sur la table, mais avec si peu de précision qu'il tomba à terre. Émilie devait se trouver dans l'autre pièce. Elle avait la manie de rester chez elle par discrétion et de ne jamais signaler sa présence avant qu'on l'appelât. « Émilie !» cria Leska lorsqu'il eut retrouvé son souffle. « Tu m'appelles ? » demanda-t-elle sans bouger, comme quelqu'un dont l'indépendance est complète et qui ne se dérange pas. « Veux-tu avoir la gentillesse de me donner un verre d'eau ? Je ne me sens pas très bien. » Elle ne répondit pas. Quelques instants s'écoulèrent, durant lesquels il guetta les moindres bruits. Il n'osait pas appeler de nouveau, de peur qu'elle ne répondît toujours pas. Enfin, il entendit bouger. Il ferma à demi les yeux, entr'ouvrit la bouche, se courba légèrement en avant. Juste à ce moment, Émilie parut. Elle regarda son frère de l'air d'une personne qu'on a l'habitude de faire aller et venir avec des appels tragiques et qui s'est aperçue qu'il ne se passe jamais rien. « Je vais te l'apporter, » dit-elle. Elle passa à côté du chapeau, mais elle ne le ramassa pas. « Je crois que je n'en ai plus pour très longtemps, » dit Leska quand elle fut revenue. « Tu t'imagineras que je dors et je serai mort. Dieu m'aura rappelé à lui. Tu seras libre. Plus personne ne te demandera de verre d'eau. « Émilie, Émilie, est-ce que cela te fera de la peine ?» Elle lui tendit le verre. Elle l'avait laissé trop longtemps sous le jet et de l'eau coulait à l'extérieur. En même temps, elle posa sur son frère un regard indifférent. Il était visible qu'elle avait pris le parti de ne jamais lui répondre. Puis, sans dire un mot, elle retourna dans sa chambre. Leska but le verre d'eau d'un trait, puis le posa à terre. Il alluma une cigarette. Quand il eut à moitié fumé, il dit à haute voix, comme si personne ne pouvait l'entendre, « Et voilà, c'est fini. Les soins dont j'ai besoin m'ont été donnés. Il a suffi que j'ouvre la bouche pour que tout de suite on s'occupe de moi. Je n'ai plus qu'à me reposer, qu'à me tenir tranquille. C'est tout de même agréable de ne pas être seul quand on commence à vieillir. Un autre aurait peut-être dû appeler des voisins, des inconnus. » Tout à coup, il se mit à crier. « Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce un châtiment ? Est-ce le châtiment ? Je n'ai rien fait de mal, pourtant. J'ai été un prévoyant, c'est vrai. J'ai toujours tout donné à tout le monde. Je n'ai jamais pensé à moi. J'ai toujours été trop bon. Voilà la raison. Émilie ! Émilie ! » Il se tut, attendant une réponse. Ses oreilles bourdonnaient. Il craignait de ne pas entendre. Il tendit la tête en avant. Aucun bruit, sauf ses battements dans les oreilles. Il appela encore. Cette fois, il entendit « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?»« Ce que j'ai aujourd'hui ? Rien, rien, rien. Je trouve simplement que j'ai été trop bon. Mais oui, j'ai été trop bon. » J'ai l'air de plaisanter. C'est vrai pourtant. Chaque fois que j'ai rencontré sur mon chemin un malheureux, je l'ai aidé. Mais oui, j'ai donné de l'argent à tout le monde. Évidemment, il m'en aurait fallu davantage. Ce que je gagnais n'était pas suffisant. Mais je me privais moi-même. N'est-ce pas que c'est vrai, Émilie ? Comment veux-tu que je sache ? Je ne connais pas ta vie. Leska jeta sa cigarette. Ces derniers mots paraissaient l'avoir surpris. Il regarda la porte d'un œil inquiet. Il cherchait quelque chose à répondre. « Tu ne connais pas ma vie, toi, ma sœur !» Aucune réponse ne vint. Il alluma une autre cigarette et pendant quelques minutes demeura immobile, les yeux mi-clos. « Tu ne connais pas ma vie » répéta-t-il. « En effet, je n'y avais pas songé. Je suis un étranger pour toi. Nous ne nous connaissons pas. » Le hasard nous a réunis ici, c'est tout. » Il se leva brusquement, se rendit dans la chambre d'Émilie. Elle était allongée sur son divan. Elle s'était enveloppée les jambes dans son manteau. Une lampe de chevet éclairait le livre qu'elle lisait. « Voyons, Émilie, tu vois bien que je te parle sérieusement. » Elle déplaça légèrement la lampe pour voir son frère. « Écoute, Maurice, dit-elle, tu es fatigant à la longue. Tu ne veux donc pas admettre que j'ai été trop bon, que si je suis dans cet état aujourd'hui, c'est parce que j'ai été trop bon ?»«
Je n'en sais rien, mon pauvre Maurice. »
« Je t'en supplie, Émilie, réponds-moi !» Elle ôta le manteau qui entourait ses jambes, s'assit sur le bord du divan.
« Je t'en prie, dit-elle en feignant une grande lassitude. « Pas de grands mots, ne me supplie pas !»«
Réponds-moi alors, dit-il.
« Répondre à quoi ?»«
Enfin, Émilie !»«
Que veux-tu que je te réponde ? Si tu as été malheureux, ce n'est pas ma faute !» Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que se passe-t-il aujourd'hui? Tu n'as jamais été dans cet état.
Lesca se radoucit soudain. Tu sais bien ce que je veux dire, Émilie. Ce n'est pas gentil. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Ce n'est pas gentil. J'ai toujours été bon pour toi.
Elle se cacha le visage dans ses mains.
Oh, ça ! Cria-t-elle.
Qu'as-tu ? Demanda Lesca.
« Rien, rien !» dit-elle en retrouvant son calme aussitôt. « Je te jure, Maurice, continua-t-elle, que je ne comprends absolument rien à ce que tu me racontes. »«
Très bien, » dit-il.
Il s'éloigna. « Tu veux dîner la première ?»«
Non, dîne d'abord. »
Il ôta son pardessus, ramassa son chapeau. Puis il se rendit à la cuisine. Il mit une casserole d'eau sur le feu, puis s'immobilisa, les yeux fixés sur les débris de nourriture qui se trouvaient entre les lamelles du réchaud à gaz ainsi que sur les réflecteurs placés sur les flammes.
« Et si j'avais de l'argent sur moi, dans mes poches » dit-il en revenant auprès de sa sœur et en se frappant la poitrine de ses deux mains.
Elle le regarda comme on regarde un homme qui, brusquement, ne contrôle plus ses paroles.
« Oui, si j'avais de l'argent, » continua-t-il.
« Je ne comprends toujours pas. »«
Je n'en ai pas. Je tiens à te le dire tout de suite pour que tu ne te fasses pas des illusions. »«
Que tu es bête !»
Il s'approcha du divan, prit le bras d'Émilie. Elle n'essaya pas de se dégager, mais tout dans son expression disait que ce bras ne lui appartenait plus.
« Je suis ton frère, Émilie. »
Elle le regarda avec mépris.
« Dîne !»«
Assez » dit-elle en se dégageant avec brusquerie.
« Assez de phrases !»
Il parut réfléchir.
« Je fais des phrases, c'est vrai, c'est pourtant vrai. N'est-ce pas extraordinaire, moi, faire des phrases ?»«
Je crois pouvoir te le dire, » fit Émilie dont le visage s'était subitement adouci.
Il s'éloigna de nouveau. L'eau bouillait, il l'ôta et ne sut plus que faire à la cuisine. Il revint dans sa chambre, prit une assiette, retourna dans la cuisine. Il aimait manger debout sur ce buffet qui avait la hauteur d'un écritoire. Quand il eut terminé, il se mit à marcher de long en large. Il entendait de temps en temps Émilie tourner une page de livre. Chaque fois qu'il passait devant la porte, il la voyait couchée sur le divan, comme une jeune femme. Il était au fond étonné qu'elle eût une position aussi gracieuse. Il avait parfois le sentiment qu'elle était une étrangère. Il lui semblait bizarre qu'elle se trouvât là, dans cet abandon si intime, sans penser une seconde à se cacher de lui. À la fin, il entra de nouveau dans la chambre et demanda avec beaucoup de douceur « Je ne te dérange pas ?» Elle jeta sur lui cet éternel regard par-dessus les lunettes, mais elle ne prononça pas un mot. Il prit une chaise, la porta tout près du divan et s'assit.
Émilie, ne trouves-tu pas qu'il y a des situations extraordinaires? Je pense à la nôtre, par exemple.
Elle ne leva même pas les yeux.
Pendant des années, continua-t-il, des années, des années, des années, des années.
Combien d'années, Émilie?
« Combien d'années? Pourquoi ? » demanda-t-elle sans cesser de lire.
« 35,
« 37 ? » dit-il. « Peut-être, » murmura-t-elle. « N'est-ce pas étrange que nous soyons là, aujourd'hui ?» Elle ne répondit pas. « Émilie !» Comme elle continuait à lire, il cria « Émilie !» Elle ne leva toujours pas les yeux. « Qu'est-ce que j'ai ? Regarde, regarde » cria-t-il plus fort encore. « Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ?» Il tremblait, ou plutôt il grelottait. Ses mâchoires étaient serrées au point que le cou s'était élargi et que les tendons en étaient distincts. Émilie continuait de lire. Bientôt, l'escas se calma. Il respirait encore bruyamment, mais on sentait qu'il ne souffrait plus. Il se leva, remit la chaise à sa place. Avant de sortir, il regarda Émilie. Elle ne lisait plus. Elle était adossée à un maigre coussin et elle avait les yeux fixés devant elle. « Tu ne dînes pas, Émilie ?» Elle se leva, éteignit la petite lampe de chevet. En passant près de son frère, elle s'arrêta. « Tu devrais te coucher, » dit-elle.